La proposition de loi organique pour le report des élections provinciales franchit la commission des lois de l'Assemblée nationale. Le texte sera examiné en séance publique demain. Les incendiaires de Plastinor condamnés ce matin par le tribunal correctionnel. La cour qui a également jugé et condamné ce matin deux des évadés de Connet pour l'agression d'un enfant à Farino et pour le casse de la station mobile de Moindouf. Dans l'actualité ce soir également, le voilier échoué à Bélep qui a pu se déséchouer tout seul grâce à la pleine mer hier. Le bateau a été remorqué jusqu'à Koumac. Les 11 personnes qui se trouvaient à bord sont toutes saines et sauves. La communauté du Pacifique a tenu sa 14e conférence annuelle ce mois-ci. Une réunion qui a permis à la France de porter certains projets sur le bureau de la CPS. Explication dans ce journal. Et puis le sport et Axel Raymond qui est rentré des championnats du monde de force athlétique en Afrique du Sud avec plusieurs médailles. Vous l'entendrez dans la page sport à la fin de cette édition. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. La commission des lois de l'Assemblée nationale a donc adopté la proposition de loi organique visant à reporter les élections provinciales. 23 amendements avaient été déposés, mais ils n'ont pas été adoptés, Elisabeth Noir.
On rappelle que la loi organique a été adoptée la semaine dernière à une très large majorité par le Sénat et qu'elle a été transmise à l'Assemblée nationale qui l'examinera mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi pour nous, en séance publique. C'est une procédure d'urgence qui était demandée parce que le calendrier est très serré. Et la nuit dernière pour nous, la commission des lois s'est réunie pour examiner le texte. C'est le député LR Philippe Gosselin qui en est le rapporteur.
Il y a un intérêt général, c'est d'ailleurs ce que reconnaît le Conseil d'État, hein, un intérêt général que je pourrais qualifier peut-être sans doute d'intérêt supérieur de la nation à reporter ces élections. Alors, je rappelle que la PPLO, elle a quand même été signée par 6 groupes sur 8 au Sénat et elle arrive non pas comme un cheveu sur la soupe, mais comme une volonté de donner du temps au temps.
Les représentants de tous les groupes politiques se sont exprimés lors de cette commission, ce qui permet de voir les positionnements des uns et des autres. Au total, 23 amendements avaient été déposés, des amendements de retrait présentés par les opposants au report des élections provinciales, essentiellement par Emmanuel Tjibaou pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, par Bastien Lachaud pour la France insoumise et par le groupe écologiste. Les débats ont été plutôt animés. Le député Emmanuel Tjibaou a argumenté sur le fait que Bougival n'est qu'un projet d'accord et qu'il ne fait pas consensus. Et il a plaidé en faveur de l'organisation des élections dès le mois de novembre.
Aujourd'hui, vous nous demandez de statuer sur le report des élections provinciales pour permettre la mise en œuvre de l'accord du 12 juillet 2025. Moi, je suis désolé. Nous, on n'a pas signé un accord. On a signé un projet d'accord. Le jour où on a signé, le ministre d'État nous a dit deux choses. Présenter aux structures qui doivent faire le retour. Et c'est sur cette base-là qu'on poursuit les discussions. Deuxième chose, l'analyse par les experts et les juristes pour évaluer la cohérence constitutionnelle et juridique du document. L'accord définitif devra être ratifié à Nouméa le mois suivant. C'est qui dit la vérité? C'est qui manque à sa parole? Le consensus, c'est une valeur qui nous tient au cœur quand on est un océanien. Alors je ne sais pas si ça a du sens ici, puisqu'on privilégie la démocratie. Nous, aujourd'hui, on dit si vous voulez aller dans le sens de la démocratie, faites les élections. Vous allez conforter l'assise de ceux qui vont être assis à la table.
Et lors de ce débat en commission des lois, les députés favorables au rejet du projet de loi ont justifié leur position par l'absence de consensus en Nouvelle-Calédonie sur l'accord de Bougival. C'est le député Nicolas Metzdorf qui leur a répondu.
Quand j'entends qu'on me dit qu'il n'y a pas de consensus sur l'accord, il y a encore moins de consensus pour aller aux élections. Puisque 80% des groupes politiques du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sont contre le fait d'aller aux élections maintenant. Parce que 80% des groupes du Congrès de la Nouvelle-Calédonie veulent poursuivre les négociations sur l'accord de Bougival. Donc l'accord de Bougival et la poursuite des négociations est soutenu par tous les groupes politiques du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, y compris des indépendantistes, sauf l'UC. C'est soutenu par l'État et c'est soutenu à l'international par le président du groupe mélanésien Forêt de Lance, qui est de Fidji. Donc moi, je veux bien qu'ils font un consensus et on est d'accord avec ça. Mais attention, le consensus, c'est pas tout le monde contre le reste. Là, aujourd'hui, ça ressemble, pardon de le dire ainsi, mais il ne faut pas que la gauche et l'UCFLNKS prennent en otage toute la nouvelle... Non, mais vous parlez de passage en force. Je parle de prise en otage, pardon. Vous êtes minoritaire à vouloir les élections maintenant. C'est une réalité. Donc respectez au moins le choix politique des Calédoniens de reporter ces élections pour pouvoir négocier.
Et puis autre sujet de débat devant la commission des lois, le soutien du groupe Fer de Lance à l'accord de Bougival. Un argument mis en avant par le rapporteur Philippe Gosselin et contesté par Emmanuel Tjibaou.
Juste une petite dernière correction. Le groupement Fer de Lance, Vanuatu, ne s'est pas prononcé hein, pour le Bougival, ni le Forum, ni la 4e commission sur la décolonisation. Donc c'est juste un rappel, il ne faut pas non plus trop tourner les choses comme si on est les mauvais coucheurs de l'histoire.
Et le rapporteur a répondu aux députés calédoniens en citant les déclarations du groupe du Fer de Lance mélanésien.
Le groupe prend note et est encouragé par la signature de la feuille de route pour la Nouvelle-Calédonie, l'accord de Bougival, et reconnaît les efforts collectifs des Calédoniens et du gouvernement français pour trouver une solution politique durable après les événements tragiques de l'an dernier. Vous verrez ça comme le verre à moitié vide, sans doute, si vous voulez. Moi, je le vois comme un verre à moitié plein, et je le vois de la part du groupe Fer de Lance. C'est pas rien, c'est le groupe Fer de Lance. Je vous rappelle qui, historiquement, est quand même très fortement marqué, et c'est son droit en faveur de Kanaki et des Kanaks, eh bien, reconnaît qu'il y a non seulement des efforts, mais une forme d'encouragement. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais pour moi, ça a de l'importance, beaucoup d'importance, par rapport à l'environnement dans le Pacifique de la Nouvelle-Calédonie, de voir que le groupe Fer de Lance apporte, d'une certaine façon, et je maintiens ce que j'ai dit, la caution à l'accord.
Au terme de cet examen, tous les amendements ont été rejetés et la proposition de loi organique a été adoptée en commission. Le texte sera maintenant examiné en séance publique mercredi, le 22 octobre. On saura jeudi matin si la loi est adoptée, si elle peut être promulguée avant le 2 novembre pour permettre le report des provinciales, faute de quoi le scrutin devrait être organisé avant la fin du mois de novembre avec un corps électoral gelé. À noter par ailleurs un autre rendez-vous à Paris, la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale doit auditionner cette nuit pour nous l'ancien ministre des Outre-mer, Manuel Valls.
Ce communiqué commun du procureur de la République Yves Dupas et du procureur général Camille Miancioni qui évoque le contexte actuel du processus engagé sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Dans ce contexte, rappelle-t-il, le ministère public reste particulièrement vigilant sur le respect de l'état de droit et le caractère inacceptable de toute action et qui viserait à troubler l'ordre public, à provoquer des appels à la haine ou à la violence ou à intimider des personnes titulaires d'un mandat électif. Le procureur de la République et le procureur général soulignent que de tels agissements délictueux qui constituent des atteintes graves à la sécurité des personnes et des biens justifieront un traitement judiciaire particulièrement diligent et ferme. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et voici notre question du jour. Pensez-vous qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour adopter la loi organique qui vise à reporter les élections provinciales? Si vous pensez qu'il y aura une majorité, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 82% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils approuvent l'initiative des fils de Nicolas Sarkozy qui invite les soutiens de leur père à manifester leur amitié mardi. Jour de l'incarcération de l'ancien président de la République à la prison de la Santé. Ils sont 18% à dire qu'ils n'approuvent pas cette initiative.
RRB, il est 17h53.
C'est le coup politique du jour. Il est signé du président du groupe UCFLNKS et nationaliste au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Pierre-Chanel Toutougoro publie une lettre ouverte au président du gouvernement pour l'appeler solennellement à sa démission, Elisabeth Noir.
Et on se demande un peu quelle mouche a piqué Pierre-Chanel Toutougoro pour demander aujourd'hui et dans le contexte économique et politique actuel, la démission d'Alcide Ponga, président du 18e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il le fait dans une longue lettre ouverte de 4 pages qui énumère des griefs, qu'il résume en une formule. On est passé d'une promesse de reconstruction à une dérive libérale et néocoloniale. Sous votre présidence, écrit Pierre-Chanel Toutougoro, la Nouvelle-Calédonie s'est replacée de fait sous la tutelle financière et administrative de l'État. Les réformes profondes que le pays attendait ont cédé la place à une succession de réformettes sans cohérence, traduisant plus une inertie qu'un courage politique réel. Apparemment, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la réunion ce matin de la Commission des finances et du budget du Congrès et la ventilation de la TGC, la taxe générale sur la consommation. Il y a aussi le fait que la dernière proposition de taxation des riches formulée par le groupe UCFLNKS n'ait pas été suivie des faits. C'est ce que semble souligner Pierre-Chanel Toutougoro.
On avait proposé un certain nombre de documents pour aider et accompagner les réformes fiscales qui étaient nécessaires pour aider à sortir le pays dans la création de richesses avec la doctrine fiscale du groupe. Donc il n'y a pas eu d'écoute de leur part. En tout cas, ils ne sont pas revenus vers nous pour échanger, pour discuter. Ensuite, les simples petites réformes qu'on a eues, c'est des réformettes en fait, mais qui nous fait comprendre que les réformes structurelles, ce n'est pas demain la veille qu'ils vont être engagés. Donc on fait beaucoup de communication, mais il n'y a rien qui est engagé.
Le groupe UCF LNK demande donc la démission d'Alcide Ponga. Il indique que dans le cas où il le refuserait, il prendrait toutes ses responsabilités institutionnelles et politiques pour mettre un terme à une gouvernance qui s'éloigne des besoins quotidiens des Calédoniens et qui met en péril la souveraineté de leur pays. En fait, en prenant ses responsabilités, le groupe UCF LNK envisage de déposer une motion de censure contre le gouvernement.
On va faire la tournée des groupes constitués au Congrès, on va leur expliquer notre démarche et puis on verra bien. Mais en tout cas, la motion de censure sera déposée. On laisse du temps, on a fait une première démarche aujourd'hui et ensuite on verra dans une semaine ou deux s'il faut aller au-delà de cette lettre ouverte.
Ça veut dire que d'ici une semaine, vous pourriez déposer la motion de censure?
C'est cela même.
Le groupe UCF LNK qui choisit la voie de la motion de censure parce qu'il ne peut pas faire tomber le gouvernement en démissionnant. En effet, Calédonie Ensemble a fait tomber le gouvernement de Louis Mapou il y a moins de 18 mois, c'était en décembre. Il reste donc peu de solutions à l'opposition UCF LNK pour faire tomber le gouvernement d'Alcide Ponga si celui-ci refuser de démissionner.
Et la publication de cette lettre ouverte suscite une réaction du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Elisabeth.
C'est Virginie Ruffnac, la chef de groupe du Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui publie une réponse aux artisans du chaos. Elle l'adresse directement au président du groupe UCF-LNKSC nationaliste pour lui dire « Vous prétendez aujourd'hui donner des leçons de gouvernance après que votre formation politique ait passé des années à occuper des responsabilités institutionnelles majeures sans jamais produire le moindre résultat tangible pour les Calédoniens. Vous brandissez l'étendard de la souveraineté alors que vous avez soumis le pays à une extrême dépendance financière de l'État », ajoute Virginie Ruffnac, qui ajoute que le membre du gouvernement Gilbert Thuyennon est aux abonnés absents devant les élus du Congrès, démissionnaire de fait de ses responsabilités et coupable d'avoir accru la dette de la Nouvelle-Calédonie. On est bien loin du pari de l'intelligence prôné par Jean-Marie Tjibaou. D'ailleurs, il n'est pas étonnant que l'on ne nous entende jamais revendiquer cet héritage, écrit encore Virginie Ruffnac. Elle conclut ce courrier en soulignant que la Nouvelle-Calédonie n'a pas besoin de donneurs de leçons, elle a besoin de bâtisseurs. Vous noterez, dit-elle, que ce courrier est signé et paraphé et que notre groupe, à travers ma voix, en assume pleinement la portée. Fin de citation de ce courrier signé de Virginie Ruffnac.
Dans l'actualité de ce mardi soir également, le 14 octobre dernier a eu lieu la réunion plénière de lancement des travaux de refondation du modèle économique et social. Une réunion à laquelle ont pris part les différents acteurs institutionnels, économiques et sociaux et qui a vu l'intervention en visioconférence de la nouvelle ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou. Dans un communiqué, la mission interministérielle qui est présidée par Claire Durieux dresse le bilan de cette première réunion. Jean-François Bodin.
Une réunion qui a permis aux participants de s'accorder d'abord sur une méthode. 5 groupes de travail vont se réunir pour traiter 5 sujets différents. Les finances publiques, les investissements, l'attractivité et la diversification économique, la vie quotidienne et le projet de société, le développement des terres coutumières et enfin la jeunesse. Les enjeux liés au nickel et à l'énergie seront traités par ailleurs, indique la mission interministérielle. En plus de ces groupes de travail, un comité de pilotage institutionnel se réunira chaque mois et l'ensemble des participants se retrouvera une fois par trimestre en commission plénière. Voilà donc pour l'organisation. La mission interministérielle rappelle ensuite les objectifs retenus à court terme, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, la préparation d'un plan de relance rapide, des actions urgentes en faveur de la vie quotidienne et un état des lieux 2026 des finances publiques. Le premier trimestre 2026, et là c'est le moyen terme, doit permettre un retour progressif à l'équilibre budgétaire et au désendettement et envisager de nouvelles filières économiques dans un but de diversification et bien sûr d'attractivité. Enfin, le long terme, c'est-à-dire à la fin de l'année 2026, la commission interministérielle ambitionne d'aboutir alors les réformes structurelles relevant du projet de société et d'aboutir sur le développement économique en terre coutumière. Le comité de pilotage fera le point sur l'avancée des travaux le 6 novembre prochain, y compris sur les groupes de travail dont les animateurs et les participants seront désignés dans les jours qui viennent, indique la commission interministérielle, qui se réunira pour sa prochaine plénière le 2 février 2026.
En bref, avec la nomination du gouvernement Le Cornu, plusieurs postes restent à pourvoir, notamment celui de préfet de Paris, depuis que Laurent Nunez, qui occupait le poste, a été nommé place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Son successeur à la préfecture de Paris doit être nommé au prochain Conseil des ministres dans la nuit de mercredi à jeudi pour nous. 3 noms circulent pour remplacer Laurent Nunez et l'un d'eux qui semble tenir la corde est Patrice Faure. L'ancien haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie est actuellement le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron à l'Élysée et cette proximité avec le chef de l'État pourrait emporter la décision. À noter que la nomination du préfet de police de Paris se fait sur proposition du ministre de l'Intérieur, mais qu'elle reste une prérogative du
du chef de l'État en raison de la sensibilité du poste. Venons-en à l'actualité judiciaire en Calédonie. Plusieurs affaires étaient jugées ce matin au tribunal correctionnel de Nouméa. La première concernait celle des incendiaires de Plastinor, Liana Colombo.
La société de Pointe-Boute, spécialisée dans la vente de tuyaux et autres matériels pour l'arrosage et l'irrigation, avait été la proie des flammes le 20 juillet dernier. Deux individus ont été condamnés à 30 mois d'emprisonnement avec 10 mois de prison ferme aménagée sous bracelet électronique et 20 mois de sursis probatoire. L'un a été reconnu coupable d'incendie, l'autre de complicité de dégradation et de vol. Les deux jeunes hommes âgés de 19 ans et originaires de Pointe-Boute étaient dans un état d'alcoolisation avancé au moment des faits. Selon le compte-rendu de l'enquête, ils auraient passé la journée à boire avec un groupe d'amis au moins 5-6 bouteilles, a rappelé la présidente du tribunal. Une consommation d'alcool excessive au point que les mises en cause ne se souvenaient même plus d'être entrées par effraction dans la société, l'avoir dégradé et volé du matériel avant de l'incendier. C'est tout d'abord grâce à la vidéosurveillance que ces jeunes ont été interpellés, puis des témoignages et enfin la vidéo filmée par l'un des deux auteurs au moment des faits, puis postée sur les réseaux sociaux. Un acte purement gratuit, résume la présidente devant les individus qui ont exprimé des regrets quant à leurs actes. Le gérant de Plastinor, représenté par son avocat Maître Rotter, s'est dit découragé et en colère. Découragé car sa société qui existe depuis 2001 et qui employait 10 personnes est désormais réduite en cendres. Et puis en colère parce que le préjudice est estimé à 620 millions de francs et que son activité est toujours à l'arrêt. En plus de leur condamnation, les deux individus sont soumis à une obligation de soins d'addictologie au cannabis et à l'alcool.
Deux autres affaires qui ont beaucoup fait parler au moment des faits étaient également présentées ce matin. Après leur condamnation pour s'être évadés de prison, deux des évadés de Koné étaient de nouveau devant la justice ce matin, Liana.
Les deux individus condamnés pour leur évasion purgent actuellement leur peine au camp Est et ils étaient de nouveau présentés au parquet pour tout d'abord une affaire qui ne concerne qu'un des deux prévenus. L'affaire concerne l'agression d'un enfant à Farino. Durant sa fuite, l'auteur des faits avait tenté de trouver une voiture. C'est ainsi qu'il se serait introduit dans la maison de cette famille originaire de Nouvelle-Calédonie. L'un des enfants, âgé de 11 ans, était dans la cuisine à ce moment-là en train de prendre son petit déjeuner. Le prévenu agresse alors l'enfant, puis dérobe un téléphone portable. Des faits que conteste le mis en cause. Reste que l'enfant est ressorti choqué de cette agression, tout comme les autres membres de sa famille. Famille qui était d'ailleurs présente pour cette audience pour tenter d'avancer, évoque la mère de la victime.
On voulait vraiment être ici aujourd'hui parce que l'affaire avait déjà été repoussée de 3 semaines et on voulait mettre en fait aujourd'hui un point final à tout ce qu'on ressent parce qu'au final on va le ressentir encore longtemps, hein, ce sentiment d'insécurité et puis de sorte d'échec par rapport au fait de protéger nos enfants. Mais on aurait voulu qu'aujourd'hui il y ait une reconnaissance de ce qui a été fait par cet individu. Or, il a tout au long du procès, là, il a nié les faits.
L'auteur des faits a été condamné à 18 mois d'emprisonnement et devra verser un peu plus d'1 million de francs de dommages et intérêts à la famille de la victime. Dernière affaire jugée ce jour, le casse de la station-service de Moindou, où cette fois, les deux individus ont reconnu les faits. Dans la nuit du 2 juillet dernier, un pick-up avait délibérément foncé dans le volet roulant de l'établissement. Identifiés grâce à la vidéosurveillance, plusieurs personnes, dont les deux évadés de Koné, avaient été vues en train de se servir dans les rayons et charger la benne du véhicule. Un séjour en prison prolongé pour les évadés de Koné qui sont donc condamnés à 1 an de prison chacun pour cette affaire d'effraction et de vol.
Un compte-rendu d'audience signé Léana Colombo. Au chapitre des faits divers, 4 véhicules incendiés, c'était la nuit dernière au Faubourg Blanc. Blanchot, 2 voiturettes, une citadine et un fourgon de livraison de la boulangerie L'Atelier Gourmand. Il était environ 23h lorsque les pompiers sont intervenus pour lutter contre ces incendies survenus à quelques minutes d'intervalle et dans le même secteur géographique. Romain Santet, directeur d'exploitation des boulangeries du groupe Atelier Gourmand.
C'est encore un coup dur de plus pour l'entreprise, pour nos équipes, car on a déjà été victime de l'incendie de toute notre flotte de véhicules, plus notre centrale de production qui était située à Normandie. Et donc beaucoup de pertes d'emplois suite à cet événement. On a durement essayé de réinvestir dans un camion neuf il y a 6 mois pour pouvoir maintenir et continuer l'exploitation. Là aujourd'hui, on a passé une nuit un peu chaotique. J'ai appris cette nuit à 23h que notre camion était en flammes devant notre boulangerie au Faubourg Blanchot. Donc très compliqué de se relever de ça. On va voir comment on peut rebondir. En tout cas, on va continuer l'activité. C'est compliqué parce qu'on a eu un peu de mal à se remettre debout, recréer des nouveaux laboratoires de production à l'arrière de notre boulangerie du Faubourg Blanchot. Financièrement parlant, c'est très compliqué. On essaye de se relever de tout ça, mais c'est compliqué. On en prend un coup au moral, mais on va essayer de garder foi et rebondir de tout ça.
Et des plaintes ont été déposées. L'enquête se poursuit alors que l'auteur présumé des faits a été interpellé, placé en garde à vue, où il a reconnu les faits. Le voilier échoué à Belle-et-Papus, déséchoué tout seul grâce à la pleine mer de la nuit. Il a pu reprendre la mer en direction de Koumac. Il a été remorqué et est arrivé à bon port en début d'après-midi. Dimanche, le Enjoy, navire de plongée sous-marine, s'était échoué sur un récif. Les précisions de l'administrateur des affaires maritimes et directeur par intérim du COSNC, Martin Blanchard.
A été décidé pour limiter au maximum le risque, c'est d'évacuer toutes les personnes non essentielles à la manœuvre de ce navire. Donc elles ont été évacuées hier après-midi par un hélicoptère Puma des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Et il n'est resté à bord que les trois membres d'équipage ainsi qu'un plongeur volontaire pour aider à la manœuvre. Donc ces quatre personnes ont tenté une manœuvre de déséchouement le soir même qui a réussi. Et en début de journée, vers 5h ce matin, le navire a pu passer la remorque avec le remorqueur. Il a été remorqué donc depuis 5h ce matin jusqu'à 14h et il vient enfin arriver à 14h au port de Koumac qui clôt l'opération de sauvetage sur ce navire. Il n'y a aucun blessé et tout le monde va bien.
Des propos recueillis par Kéline Daboakou, le navire Enjoy était parti de Koumac samedi dernier et devait faire le tour du Grand Nord jusqu'au 26 octobre prochain. Il est 18h06, on va marquer une première pause dans ce journal dans un instant. La suite de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Vos agendas 2026 sont disponibles dès maintenant chez Bureau Vallée à partir de 175 francs. Avec les agendas semainiers Quo Vadis, profitez d'une mise en page claire, d'une organisation pratique et d'une fabrication française au service des pros.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Info Soir, Lionel Sabot.
La communauté du Pacifique s'est réunie ce mois-ci lors de son 55e comité des représentants des gouvernements et d'administrations, le CRGA, puis au cours de sa 14e conférence annuelle. Deux événements décisifs puisqu'ils ont voté les projets que soutiendra la communauté. Cela a été l'occasion pour la France de faire agréger deux importantes initiatives. Charlotte Coulson.
La première concerne la conservation de la culture océanienne à travers l'audiovisuel. Les plateformes de streaming se sont en effet imposées comme des géants du secteur au détriment des petits créateurs dépassés par les œuvres mainstream. Le but de l'initiative est donc de leur redonner une place en lançant un programme régional de soutien à la création audiovisuelle océanienne. C'est le projet qu'a défendu Véronique Roger-Lacan, l'ambassadrice de la France dans le Pacifique lors de ce 55e CRGA.
Pour l'audiovisuel, l'État en tant que tel a voulu participer à la création d'une initiative régionale parce qu'il y a beaucoup d'engagements bilatéraux avec certains États du Pacifique. Mais là, l'idée, c'est que tous les États du Pacifique puissent se mettre ensemble parce qu'ils ont très souvent une volonté de préserver leur culture qu'ils estiment en danger. Ils disent souvent « nous sommes en train de subir un tsunami culturel avec Netflix, avec les cultures anglo-saxonnes et occidentales, et notre jeunesse doit être au courant et façonnée par sa propre culture ». Et c'est à cette demande-là que nous avons souhaité répondre. Et l'idée, c'est vraiment de créer une industrie culturelle et créative océanienne.
L'autre initiative agréée et qui bénéficiera donc du soutien de la CPS apporte une réponse au problème d'érosion côtière que subissent de nombreux territoires insulaires du Pacifique. Des îles comme Tuvalu, Kiribati, les Cook, Tonga ou même les îles Marshall cherchent un matériau peu coûteux pour construire ponts, quais et digues. Un matériau comme le sland fait à partir de scorie de nickel. La Nouvelle-Calédonie en dispose en grande quantité, 24 millions de tonnes, et le matériau est assurable grâce au référentiel de construction de la Nouvelle-Calédonie.
Le référentiel calédonien, c'est une vraie garantie en Nouvelle-Calédonie. Et là, l'idée, c'est que ce référentiel soit étendu à tout le Pacifique. Pour l'instant, la scorie de nickel calédonienne n'est pas encore inclue dans les références de construction de tous les autres États du Pacifique. Donc, on finance une étude de faisabilité pour voir si cela sera possible. Et ça devrait l'être parce que les études sont conclusives. Et le deuxième point de l'étude de faisabilité, c'est une étude de logistique qui étudiera les moyens de transport disponibles dans tout le Pacifique pour transporter ce matériau. Notre idée à nous, c'est vraiment de trouver des solutions par le Pacifique pour le Pacifique.
Au cours de ce 55e comité, la CPS a également renouvelé sa direction générale. C'est le Tongien Paola Vivili qui a donc été élu à la tête de la communauté du Pacifique.
Et notez ce rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. C'est Véronique Roger-Lacan, l'ambassadrice de France dans le Pacifique, qui sera notre invitée demain matin à 7h30. Nous reviendrons avec elle sur ce 55e comité des représentants des gouvernements et administrations et la conférence annuelle de la CPS. Un rendez-vous pour les entreprises souhaitant être accompagnées ou conseillers dans leur transition numérique. La Chambre de commerce et d'industrie a lancé sa première édition de la Digital Week, un événement 100% gratuit au cours duquel les entreprises peuvent rencontrer des professionnels du secteur, assister à des conférences sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la data ou encore l'autonomisation. Thomas Lefebvre, conseiller en gestion d'entreprise à la CCI et en charge du volet digital, proposait par exemple un diagnostic pour évaluer le niveau de maturité numérique des sociétés.
Il y a une partie de la population qui est déjà très digitalisée, qui est bien au fait de tous les outils numériques qui peuvent exister. Et il y a quand même une certaine fracture avec une population qui est un petit peu en retrait, qui a encore un petit peu du mal à se projeter, qui va voir tout ça plus comme des dépenses plutôt que des investissements. C'est de voir, on va dire, ce qu'ils font déjà bien, ce qu'ils font peut-être moins bien, où est-ce qu'il y a de la marge de progression, pouvoir les orienter, les aiguiller. Dans tous les cas, le digital, on peut plus trop faire sans aujourd'hui. Ça va être principalement des gains de productivité, de la fiabilité des données, l'optimisation des process et tout ce qui est aussi collaboratif au sein de l'entreprise ou avec les partenaires.
Et la Digital Week se poursuit jusqu'à vendredi à la Chambre de commerce et d'industrie. Le programme complet est à retrouver sur le site internet de la CCI. Depuis le 1er octobre, la DCGR a activé sa cellule feu de forêt. Nous en avons parlé dans le magazine Citoyen avec le capitaine Alexandre Rossignol, officier référent du centre opérationnel de gestion de crise.
C'est nouveau, le centre opérationnel a beaucoup évolué. Avant, il était à la colline d'Oiseau, il faisait 127 mètres carrés. Puis entre la crise du Covid et l'année dernière, on a mis en place un centre opérationnel qui maintenant fait 450 mètres carrés, mais qui est beaucoup plus adapté en fin de compte à la gestion de crise, avec l'intégration de nouvelles technologies. Donc il est en train de se finaliser. Il est déjà opérationnel, mais pas à 100%. Il sera opérationnel à 100% à partir de décembre. On se prépare pour la saison cyclonique.
Donc pour gérer toutes les crises finalement au même endroit.
C'est le centre opérationnel de gestion de crise de tout le gouvernement de la Calédonie qui est incapable, qui sera en capacité de pouvoir gérer les crises sanitaires, comme les crises de sécurité civile ou des crises qui peuvent être vétérinaires et autres. Voilà, c'est vraiment la boîte à outils de gestion de crise du GNC.
Et les dernières technologies sont déployées pour aider les pompiers à la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques, et notamment les drones. Yannick Béan, chef de l'unité des télépilotes de drones de la sécurité civile.
Sur le dernier feu de Païta, c'est un feu qui faisait un peu plus de 400 hectares. On a mis à peu près 20 minutes pour faire le tour de feu et identifier une dizaine de points. Et derrière, le commandant des opérations de secours a pu très facilement adapter une stratégie. Ça va être une aide à la décision ultra rapide et instantanée, en fait, grâce à son retour vidéo.
20 minutes avec le drone, il aurait fallu combien de temps, peut-être, avec des pompiers au sol pour déterminer tout cela ?
Il aurait fallu plusieurs heures.
Ouais, j'ai envie de vous dire même plusieurs journées pour être sûr, parce que en fait, si vous n'avez pas de caméra thermique, vous pouvez marcher dessus, ouais. Et vous ne le voyez pas. Nous, ça nous arrive très souvent d'orienter l'équipe au sol, et on leur dit, tu vois, tu fais 2 mètres, tu t'arrêtes, parce qu'on est à la radio avec eux, tu arrêtes-toi sous tes pieds, tu es à 250 degrés. Et quand ils grattent, ils ouvrent une veine parce qu'il y a énormément de transmission racinaire thermique quand ils grattent et ils ouvrent. Et là, bah, ça y est, ils voient un foyer qu'ils ne voyaient pas du tout. Ils pouvaient marcher dessus, rouler dessus, ils ne l'auraient pas vu. Et ça, ces points chauds, c'est justement cela qu'on identifie. Ça, vous ne le voyez pas et vous repartez pour des centaines d'hectares.
Et était également invité dans Citoyens le lieutenant Caril Payandi, officier référent de la cellule Feu de Forêt, une émission qui est à retrouver sur notre site internet www.rrb.nc. Il est 18h15, on va marquer une toute dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive et la météo.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La Chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie vous invite au salon BAT Expo et Plus du 24 au 26 octobre à la baie de la Moselle. Un événement dédié aux professionnels et au grand public autour du bâtiment, de l'habitation et de la décoration. Vendredi et samedi de 9h à 17h30 et dimanche jusqu'à 16h. BAT Expo et Plus, un salon incontournable pour construire, rénover et décorer sa maison.
Savez-vous qu'il est préférable de ne pas dépasser de 8 degrés l'écart entre la température intérieure et la température extérieure ? Sachez aussi qu'une habitation bien isolée permet de gagner jusqu'à 5 degrés de température intérieure.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Lionel Sabot.
Axel Raymond est de retour sur le territoire. La semaine dernière, il a terminé sur le podium mondial de force athlétique en Afrique du Sud. Après avoir décroché le titre de vice-champion du monde en 2024, le Calédonien a remporté cette fois le bronze chez les Masters 1, moins de 93 kilos. Axel Raymond nous a confié qu'il se sentait le potentiel de faire encore mieux.
Ça reste une médaille, on l'apprend, mais un bilan très mitigé parce que les objectifs fixés donc, n'étaient pas présents. J'ai fait un très mauvais départ de championnat avec deux squats loupés sur des charges que je fais facilement à l'entraînement. Voilà, je sais quand même qu'il y a, pour moi, il y a quand même cette déception qui est présente. Les premiers qui m'ont félicité ont été ma famille et le comité territorial olympique et sportif. Ça fait plaisir. Et bien sûr, la Calédonie. Et je les remercie tous parce que, comme je l'ai dit, cette médaille, elle est quand même pour moi, pour ma famille, mais aussi énormément pour nous, les Calédoniens, en fin de compte. C'est pour montrer que notre petite île, elle est présente, même au niveau mondial. Je vois dans les autres sports, on est aussi présents. C'est vraiment l'objectif, être en équipe de France, mais montrer que nous, Calédoniens, nous pouvons aussi arriver à toucher l'excellence.
Le licencié du Tagalawa Gym a fait forte impression sur la scène internationale après avoir créé la surprise lors des mondiaux de 2024, où il avait mené cette aventure par ses propres moyens. Il est désormais suivi de près par les instances nationales, mais il espère pouvoir poursuivre son projet malgré le manque de moyens, notamment avec l'objectif des championnats d'Europe.
Déjà rien que de savoir que la France et l'équipe nationale a un œil sur nous, les athlètes qui étions présents à Cape Town. C'est un plaisir. Les championnats d'Europe, je pense que ce sera une belle sélection. Après, ça reste encore flou, parce qu'il faut encore ressortir de l'argent pour y aller. Réfléchir à monter un plan financier pour pouvoir repartir et espérer y arriver. Bon, après, il y a plusieurs sports aussi qui n'ont pas de finances. Mon cas n'est pas isolé, mais lorsque l'on me dit que je suis trop vieux pour être aidé financièrement, on se demande ok, d'accord, pas de problème, mais à quoi ça sert d'être athlète calédonien ? Mieux vaut continuer à tirer pour l'équipe de France, puis tirer pour le peuple calédonien, et c'est tout. Championnat du monde, championnat de France, championnat d'Europe. À un moment donné, il faut aussi que l'on refasse un petit remix de tout ça, de se rendre compte de tous les masters quand même qui sont sur les circuits mondiaux, et peut-être se dire, il y a peut-être une chose à faire avec eux, il y a peut-être quelque chose à voir avec eux. Si vous voulez des médailles aux Jeux du Pacifique, comptez aussi sur les masters. Il faut aussi compter sur nous.
Axel Raymond a également décroché le titre de vice-champion du monde développé couché en Afrique du Sud. Quant au prochain championnat d'Europe de force athlétique, ils sont prévus en Finlande. Termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre.
Nous restons en vigilance jaune pour fortes pluies et orages sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas une surprise. Cette nuit, le ciel restera souvent chargé sur l'est, les Loyautés, la pointe sud et l'île des Pins, avec des averses parfois soutenues, plus marquées entre marée et l'extrême sud. Sur la côte ouest, les étoiles referont leur apparition par moment. Le vent de nord-est soufflera entre 5 et 10 nœuds, pouvant atteindre 15 nœuds sur les pointes de la Grande Terre et en sortie de vallée. Les températures minimales resteront douces entre 20 et 23 degrés. degrés. Demain matin, le ciel sera très nuageux, accompagné d'averses fréquentes plus marquées sur la côte est et les Loyautés. Sur l'ouest, après quelques belles éclaircies en début de matinée, le ciel se rechargera progressivement avec quelques averses locales attendues. Le vent se maintiendra au nord-est entre 10 et 15 nœuds sur les pointes et dans les vallées du nord-ouest, un peu plus faible ailleurs. Côté marée, la marée sera haute attendue ce soir à 19h49 pour 1m47. Elle sera basse demain, mercredi à 2h07 pour 0m31 avant une nouvelle marée haute à 8h30 avec un niveau de 1m51.
Merci Pierre, c'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi.